Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, report du procès d'une vingtaine de militants de la société civile au Niger. Emmanuel Macron est en visite au Nigeria. Les législatives ont été reportées au Cameroun. Souad Abderrahim du parti Ennahda devient la première femme maire de Tunis. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir dans l'actualité africaine, au Niger, le procès d'une vingtaine de militants de la société civile nigérienne détenus depuis mars après une manifestation interdite. Ce procès a été reporté au 10 juillet. Nous faisons le point avec Eric Manirakiza.
Le procès des militants de la société civile prévu ce mardi 3 juillet est renvoyé au mardi 10 juillet, a affirmé un des responsables des ONG. Les raisons du report ne sont pas précisées. Les détenus, écroués dans des prisons, n'ont pas été acheminés au palais de justice de Niamey. Les 26 prévenus, dont des figures de la société civile, ont été pour la plupart arrêtés le 25 mars. C'était à la suite de heurts entre les forces de l'ordre et des manifestants qui voulaient braver une interdiction de manifester contre la loi de finances 2018 qu'ils jugent antisociale. D'après leurs avocats, ils sont poursuivis pour organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation de biens publics et privés. Amnesty International a appelé à leur libération immédiate et sans condition.
Au Burkina Faso, la justice a condamné Naïm Touré à 2 mois de prison ferme pour incitation à la révolte, pour avoir publié un post sur son blog incitant les forces de défense et de sécurité à manifester contre de mauvais traitements. Nous écoutons Bagassi Koura.
Arrêté le 14 juin et incarcéré depuis à Ouagadougou, Naïm Touré était poursuivi pour, je cite, « participation à une entreprise de démoralisation des forces de défense et de sécurité, incitation de troubles à l'ordre public et proposition aux forces de défense et de sécurité de former un complot contre la sûreté de l'État ». Le tribunal de grande instance de Ouagadougou, devant lequel a comparu le prévenu, a abandonné 2 de ses charges, mais l'a reconnu coupable d'incitation à la révolte et condamné à 2 mois de prison ferme. On a été surpris parce qu'à l'audience, nous avons démontré à suffisance qu'il n'y avait pas d'infraction. Je ne suis pas content de cette décision et nous allons faire appel, a déclaré son avocat Maître Roger Yamba. Le 13 juin, le jeune homme avait publié sur sa page Facebook un pamphlet contre le pouvoir et les forces de l'ordre, dénonçant le manque de diligence dans l'évacuation sanitaire d'un élément de l'unité spéciale de la gendarmerie blessé par balle lors d'une opération antiterroriste à Ouagadougou. Naïm Touré avait déjà été condamné en 2017 pour injure.
Le président français Emmanuel Macron est en visite au Nigeria aujourd'hui après avoir assisté au sommet de l'Union africaine en Mauritanie. Il a rencontré le président Muhammadu Buhari à Abuja avant de se rendre à Lagos où il visitera notamment le sanctuaire africain de Fela, créé par l'ancienne légende de la musique Fela Annie Koulapo Kuti. À Abuja, les détails avec Gilbert Tamba.
Le président français effectue une visite en 3 dimensions, politique, économique et culturelle. Pour le président français, le Nigeria représente d'abord un choix actif. Il y a effectué son stage il y a 15 ans auprès de l'ambassade de France au Nigeria. Le Nigeria représente aussi un choix politique au vu du poids du président Muhammadu Buhari en Afrique de l'Ouest. Les 2 chefs d'État discutent non seulement de la lutte contre Boko Haram, mais aussi de la situation de sécurité dans la région du Sahel. Muhammadu Buhari a été un acteur essentiel de la force d'action africaine contre Boko Haram avec des résultats, a déclaré le président français à son arrivée. En plus, au-delà de sa visite à haute portée symbolique au mythique club phare de Fela Kuti, le président français veut rapprocher la France des pays anglophones et du Nigeria en particulier. Le Nigeria qui représente un grand centre d'affaires avec une population qui atteint aujourd'hui les 200 millions. Emmanuel Macron, qui est également le premier président à visiter le sanctuaire de Fela Kuti, est le premier président français à se rendre à Lagos, la première mégapole d'Afrique. Accompagné des musiciens sénégalais Youssouf Ndour et béninoise Angélique Kidjo, Emmanuel Macron lancera l'organisation de la saison des cultures africaines qui se tiendra en France en 2020.
Toujours au Nigeria, le président Muhammadu Buhari subit de plus en plus de pression pour limoger les responsables de la sécurité du pays face à la montée des violences qui ont fait près de 2000 morts depuis le début de l'année. Malgré des progrès réalisés contre Boko Haram dans le nord-est du pays, les troubles se sont intensifiés ailleurs, dans le centre du pays notamment, avec la résurgence d'affrontements intercommunautaires meurtriers entre agriculteurs et éleveurs, une hausse des kidnappings ou des faits de banditisme. Selon Amnesty International, 1813 personnes ont été tuées dans 17 des 36 États du Nigeria depuis le début de l'année. C'est plus du double des 894 morts de l'année 2017. En Guinée équatoriale, 5 partis et mouvements politiques d'opposition en exil se sont déclarés prêts à participer au dialogue politique convoqué mi-juillet par le pouvoir si leur protection et leur sécurité sont garanties par la communauté internationale. Ces partis, notamment le PDGE de Severo Motonsa et la CORED de Salomon Abessos Ndong, réclament une amnistie générale en prélude à ce dialogue. La police zimbabwéenne a arrêté 2 personnes soupçonnées d'être liées à l'attentat à la grenade qui a visé le président Emmerson Mnangagwa il y a une dizaine de jours. Le président n'avait pas été blessé, mais 2 de ses gardes du corps avaient été tués. Aucun détail sur l'identité ou les faits reprochés aux 2 suspects n'a été communiqué. 2 autres personnes avaient déjà été arrêtées la semaine dernière en lien avec l'attentat, mais elles ont été remises en liberté. En Tunisie, Souad Abderrahim, tête de liste du parti islamiste Ennahda lors des récentes élections municipales, Souad Abderrahim devient la première femme maire de Tunis. Plus de détails avec Raïssa Girondin.
Souad Abderrahim, la candidate du parti Ennahda, mais qui se définit comme indépendante, a été élue maire de Tunis. Avec 26 voix contre 22 pour son principal adversaire, Kamel Idir, elle a été élue lors d'un deuxième tour boycotté par certains élus de gauche et du centre, se refusant de voter pour l'un ou l'autre des 2 partis hégémoniques, Ennahda et Nida. L'événement est qualifié d'historique car c'est la première fois qu'une femme est à la tête de la capitale d'un pays arabe. J'offre cette victoire à toutes les femmes de mon pays, à toute la jeunesse et à la Tunisie, a lancé cette gérante d'une entreprise pharmaceutique. Le premier dossier ce sera l'amélioration de l'esthétique de Tunis, a-t-elle ajouté. La capitale tunisienne est en effet confrontée à un problème de gestion des déchets qui s'est empiré après la révolution de 2011, qualifiée de berceau du printemps arabe.
Au Maroc, les autorités ont interpellé depuis fin juin 16 nouvelles personnes dans la région du Rif après des tensions liées à la condamnation le 26 juin dernier des meneurs du mouvement du Irak. Des meneurs qui ont été condamnés à des peines comprises entre 1 an et 20 ans de prison. Ces jugements avaient suscité des réactions d'incompréhension et d'indignation dans le royaume.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo se rendra de nouveau en Corée du Nord le 5 juillet. La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a confirmé que le chef de la diplomatie américaine doit rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et son équipe afin de poursuivre l'important travail en cours de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Toujours aux États-Unis, des incendies continuent de ravager certaines parties de la Californie, attisées par la forte chaleur et des vents violents. Dans une région déjà durement touchée par le feu cet hiver, plus de 2000 pompiers combattent ce gigantesque incendie qui s'est déclaré samedi dans le comté de Yolo. Le président iranien Hassan Rouhani a qualifié aujourd'hui de pure imagination l'annonce par les États-Unis qu'ils allaient empêcher l'Iran d'exporter son pétrole. Hassan Rouhani a dénoncé les sanctions aveugles américaines comme, dit-il, la pire violation des droits de l'homme. Depuis leur retrait en mai de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015, les États-Unis ont annoncé le rétablissement de sanctions contre l'Iran et veulent notamment réduire à 0 ses revenus tirés de ses ventes de pétrole brut. Et puis en Indonésie, au moins 16 personnes, dont 2 enfants, ont péri dans le naufrage d'un ferry qui a coulé au large des côtes. C'est la fin de ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Tout de suite, le journal de la Coupe du Monde, présenté ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Un match ennuyeux cet après-midi entre la Suède et la Suisse. Et ce sont les Suédois qui se qualifient au bout de 90 minutes grâce au premier but de Forsberg dans la compétition. C'est la première fois depuis 1994 que la Suédoïde disputera les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Le point avec l'envoyé spécial de VOA Afrique Russie, Amdinsi.
Il a fallu attendre la 66e minute pour voir les Suédois concrétiser leur domination par l'intermédiaire de Foster, auteur de son premier but dans ce mondial après trois prestations quelconques, bien servi par Toivonen, l'attaquant des Vikings, a trompé la vigilance du portier suisse d'une frappe du droit qui a été déviée. Les Suédois avaient même la possibilité de doubler la mise dans le temps additionnel sur un corner éclair. Orson qui filait au but a été bousculé par Lang. L'arbitre désigne le point de pénalty et expulse le défenseur suisse avant de revenir sur sa décision. À la place d'un pénalty, il siffle un coup franc après avoir consulté la vidéo, encore la VAR. Mais la messe était déjà dite car les Suédois vont disputer les quarts de finale pour la première fois depuis 1994. Amédine Si, Moscou, vers Afrique.
Et la Colombie face à l'Angleterre, coup d'envoi 18h temps universel. Comme pressenti, le milieu offensif de la Colombie, James Rodriguez, ne figure pas dans le 11 de départ de José Pékerman pour affronter l'Angleterre. Le Munichois ne s'est toujours pas remis de sa blessure au mollet. Autre changement à noter, le milieu défensif de Boca Junior, Wilmar Barrios, est titularisé au détriment de Mateus Uribe au profil plus offensif. Coup d'envoi 18h temps universel. Retour à présent sur le scénario incroyable hier à Rostov pour les Diables Rouges, menés 2-0 par le Japon à la surprise générale. La Belgique a effectué un superbe retour pour arracher son billet pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Victoire 3-2, la Belgique qui avait fortement dominé la première période sans concrétiser. Et après la pause, basculement sur un contre, Haraguchi marque à la surprise générale pour le Japon. Imité quelques minutes plus tard par Inoui, 2-0. On se dit alors que les Japonais filent vers une qualification, mais Vertonghen réduit le score pour la Belgique, puis Fellaini égalise de la tête. On est alors à la 74e minute de jeu. Les Belges continuent à pousser dans un dernier quart d'heure assez fou, mais c'est Nasser Chadli qui a finalement évité la prolongation sur un contre à la dernière seconde. Il permet la victoire des Belges. En quart de finale, la Belgique affrontera le Brésil. Match plus calme pour les Brésiliens qui se sont imposés 2-0 sur des buts de Neymar et Firmino face au Mexique. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin-Gué.
Bonsoir. Lorsque le Brésil retrouve la stratégie qui le fait gagner depuis 1994, les supporters se mettent à rêver d'une sixième couronne. En effet, cette stratégie gagnante se précise plus clairement avec l'amélioration du dispositif rechoisi au début de la compétition. Lors du match Brésil-Mexique, le sélectionneur a réajusté à juste titre la position offensive de ses joueurs, d'où la pagaille que le virevoltant William a provoqué en occupant une position axiale de remonteur de balle, rendant plus fluide l'animation du jeu d'attaque de Carioca. Et quand on sait que, depuis le raté de la génération romantique de Carioca en 1990, le Brésil a fait le choix de la solidité défensive, de l'opacité du bloc et du rendement maximum à l'individuel comme en attaque placée, de super attaquants portés à l'avant. Les résultats ont suivi. Pour la victoire de 1994, c'est le duo Romario Bebeto qui faisait la différence en attaque, tandis que le capitaine Dunga cadenassait au milieu, un bloc défensif hermétique où s'échappait souvent sur la droite un centreur intelligent nommé Cafu. En 2002, le même schéma était servi. Gilberto Fermant au milieu et le trio d'attaque Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho était inarrêtable. Toujours appuyé sur sa droite par Cafu, devenu capitaine. Le Brésil reprenait son bien. Si la rareté des talents, le même volume à l'avant explique en partie les éclipses de 2006 à 2014, le cri actuel va profiter de la présence d'un joueur hors norme, Neymar Junior, pour tenter de faire le coup de 1994 et 2002. La rencontre contre le Mexique a donc installé le pays de Pelé dans le fauteuil de super favori actuel. C'est à la France, à l'Uruguay, à la Belgique ou d'autres de lui rappeler la tendance anti-star de cette Coupe du Monde. À bientôt.
Et Belgique-Brésil, ce sera vendredi tout comme France-Argentine. C'est la fin de ce journal de la Coupe du Monde.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Fin du sommet de l'Union africaine en Mauritanie. Les dirigeants de l'organisation panafricaine ont discuté des questions de sécurité liées aux crises sur le continent, de la zone de libre-échange continentale et ont soutenu la candidature du Rwanda pour diriger la francophonie. Ce sommet de Nouakchott a été aussi marqué par la présence du président français Emmanuel Macron qui s'est entretenu avec les dirigeants de la force conjointe du G5 Sahel. Pour un commentaire, Eric Manirakiza, adjoint à Dakar, l'économiste et analyste politique auprès de Wati, Gilles Olakunle Yabi.
C'est un sommet traditionnel de l'Union africaine, donc il ne faut jamais s'attendre à ce qu'il y ait des décisions nécessairement importantes, fermes sur des sujets précis à la suite de ces grandes rencontres.
Il y a la question de la force G5. Sahel, on est très loin de rendre opérationnelle cette force.
Là, il semble que des discussions aient été, disons, assez précises et que, par exemple, il y aura un changement au niveau du commandement de la force en tirant des leçons, notamment du dernier attentat contre le QG de la force au Mali. Donc, il y a quand même une volonté forte de mettre en place cette force et pour cela, il faut bien sûr pouvoir régler la question du financement et ça, ça ne se règle pas seulement à travers une multiplication de réunions. Je crois que effectivement, on est loin de voir cette force en train de réaliser, disons, des opérations sur le terrain avec succès. Mais je crois aussi que l'objectif n'est pas nécessairement de remplacer Barkhane à court ou même à moyen terme. Je crois que l'objectif est d'avoir une force G5 Sahel outillée pour la lutte contre les groupes terroristes, mais cela ne va pas nécessairement induire un départ de la force Barkhane qui a évidemment des capacités plus importantes et qui opère sur un territoire beaucoup plus large que ne le fera le G7.
Le président nigérien a parlé d'un combat militaire à court terme, mais un combat économique et social qui doit être essentiel en développement économique.
Tout le monde, maintenant, même les militaires, répète à l'envi que la réponse militaire ne suffira pas à moyen terme à créer des conditions d'une sécurité dans le Sahel. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut des réponses économiques, mais je dirais qu'il faut également des réponses politiques et des réponses sous forme de changements importants dans la gouvernance des États. Je crois que c'est sur ce terrain-là qu'il y a beaucoup moins de discussions et peut-être beaucoup moins d'ambition.
Il y a cette zone de libre-échange. On est loin du compte des 22 pour que ce traité puisse entrer en vigueur. Pourquoi, selon vous, les pays africains ne se pressent pas?
Dans le cas de ce traité de libre-échange continental, il n'y a peut-être aussi pas vraiment eu suffisamment de discussions, y compris au niveau des États, entre les différents acteurs de la société, les acteurs économiques. Il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui comprennent dans les pays africains de quoi il s'agit, quels sont les bénéfices attendus de ce traité de libre-échange et, par exemple, en quoi est-ce que ce traité dont se superpose ou rend caduque un certain nombre d'accords au niveau des communautés économiques régionales, par exemple.
L'économiste et analyste politique Gilles Olakunle Yabi à Dakar, au Sénégal.
Que pensez-vous des royautés sur le continent africain? C'est la question posée ce soir dans À votre avis. Le roi Dabomey Agoli Agbo est mort lundi matin. Il était l'une des têtes couronnées les plus respectées du Bénin. Que représentent les royaumes africains aujourd'hui? Quelles sont leurs fonctions? De quel pouvoir disposent-ils? Que pensez-vous des royautés dans les États modernes? Morgane Guiriac en votre compagnie, réagissez en direct à 18h temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook, nous vous rappellerons.
Au Cameroun, les députés ont adopté la prorogation d'un an de leur mandat à partir du 29 octobre 2018 à la demande du président Paul Biya, reportant les législatives de 2019. À 2019. Le président Biya a expliqué cette extension par la difficulté de tenir des élections présidentielles, législatives et municipales au cours de l'année 2018. Yakuba Ouedraogo a joint le professeur Aboya Ndong Manassé, professeur de sciences politiques à l'université de Douala. Il est spécialiste des questions parlementaires.
en observation des présomptions d'embouteillage, des risques de chevauchement du calendrier électoral quasiment le 25 octobre et le 3 novembre 2018, on courait effectivement le risque au bois à l'Ambouyamini d'organiser quasiment au même moment la présidentielle, les législatives et les municipales, ce qui devait compliquer la tâche aux différents organes chargés de gérer le processus électoral.
Cette prorogation d'un an du mandat des députés s'expliquerait donc par cette volonté d'éviter un chevauchement du calendrier électoral. Mais c'est une réalité qui était connue.
C'est une réalité qui était connue, mais les législatives, à elles toutes seules, ont bénéficié de deux prorogations précédentes à cause de la cohésion, de la convergence de vues qui était convoquée par les partis d'opposition pour réaménager un code électoral consensuel. Donc ce sont ces deux renvois successifs qui ont ramené la convergence quelques années plus tard à ce risque de chevauchement.
Le mandat des députés a été prorogé. Qu'en est-il des conseillers municipaux?
Les conseillers municipaux, certainement, vont être plus ou moins concernés dans les jours qui viennent, mais c'est au président de la République de décider. Aucun analyste, encore moins modeste observateur comme celui qui vous parle, ne peut présager de la perspective qu'il donnera au déroulement de ces prochaines municipales.
En attendant cela, l'élection présidentielle est prévue en principe en octobre, mais n'a pas encore été convoquée par les autorités. Faut-il craindre là aussi un report?
Les délais ne sont pas encore consommés, puisque logiquement, ils devraient convoquer le corps électoral entre la mi-juin et la mi-juillet pour qu'une élection présidentielle se déroule normalement en octobre prochain. Donc, nous sommes dans l'attente de cette convocation électorale.
On a Boko Haram qui sévit dans l'extrême nord du pays et les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest confrontées à une crise sociopolitique. Est-ce qu'il est possible de tenir des élections dans ces parties du Cameroun-là?
L'élection présidentielle étant une élection majeure, c'est-à-dire qui capitalise l'attention de tous les Camerounais, qui a pour seule circonscription l'entièreté de l'État, l'élection présidentielle n'a aucun problème pour son déroulement. C'est plutôt la difficulté par rapport aux élections locales qui nécessitent la mobilisation des acteurs locaux qui ont à présenter des candidats qui laissent en pouvoir des difficultés matérielles.
C'était le professeur Aboya Ndong Manassé, spécialiste des questions parlementaires.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, la région cotonnière de Kourouma, dans le Kéné-Dougou, refuse la culture du coton. Tombée en impayé de 150 millions de francs CFA, la région a exigé de l'industrie textile l'annulation de cette dette. Elle estime que les instants livrés par la société au cours de la campagne écoulée n'est pas de bonne qualité. Alidou Ouedraogo.
Située à 75 km de Bobo Dioulasso dans la province du Kéré-Dougou, la région cotonnière de Kourouma avec ses 9 départements représente 10% de la zone Sofitex, soit une capacité de production de 70 000 tonnes l'an. La raison de la fronde selon les paysans est que la Sofitex refuse d'assumer les conséquences de ses mauvais intrants de la campagne passé.
J'ai fait 5 hectares. En fin de compte, j'ai eu 2 tonnes et demi. Alors, les années passées, les 5 hectares, et j'ai gagné un peu plus de 4 tonnes et demi.
L'an passé, j'avais cultivé 18 hectares. Et en ça, j'ai trouvé 9 tonnes 600. D'habitude, moi, je gagne 1 tonne 600 par hectare. Je pouvais même arriver jusqu'à 30 tonnes.
Moi, j'étais fait au moins 12 hectares et puis j'avais 19 tonnes. La fois passée, j'ai fait 24 hectares puis j'avais 20 tonnes seulement. Je devrais gagner au moins 40 tonnes. J'avais payé un tracteur pour me débrouiller. Puis j'avais vendu aussi pour débrouiller mes enfants qui sont en l'école. Il y a 9 enfants avec moi dans l'école. La fois passée, là, moi, j'ai fait coton jusqu'à 24 hectares. Je n'ai rien gagné. Cette année, je veux faire céréales 15 hectares. Je ne peux pas me laisser comme ça. J'ai un père de famille.
Pour eux, pas de raison de s'endetter encore cette année.
Mon impayé, ça a élevé à 3 600 000. J'ai vendu mon coton, j'ai eu 2 millions et quelques. Je rentre bredouille. Je n'ai pas continué à m'endetter.
Moi, j'ai eu d'impayé 400 000 sur les 5 hectares. J'ai eu que 2 tonnes 500. Tout le monde a perdu. Et j'ai cultivé mon céréal. J'ai cultivé déjà 3 hectares et demi de maïs. Et je me prépare pour le mil, le sorgho et autres. J'ai prévu 3 hectares aussi pour le mil.
Personne de la région ne fera le coton car nous avons fait du gris-gris. nous dit Issa Traoré, producteur et chef de terre de Kourouma.
Les chefs de terre ont fait les gris-gris en fait pour ça. En celui qui cultive le coton, il y aura quelque chose de mal.
Pour retourner au coton, on pose maintenant d'autres conditions. Pascal Traoré, la cinquantaine dépassée, est dans son nouveau champ de céréales.
Pour reprendre le coton dans la région de Norola, là, on a sollicité les OGM. Bien avant les OGM, on les a cultivés. Si on pouvait ramener ces OGM, parce que les OGM, là, ils sont très pratiques et puis les vers n'arrivent pas à atteindre cela.
Ali Douedraogo, de retour de la région cotonnière de Kourouma, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Congo-Brazzaville, quatre compagnons du général Jean-Marie Michel Mokoko ont été condamnés lundi à 30 mois de prison ferme par la cour d'appel. Ses opposants n'avaient pas été jugés en même temps que le général Mokoko car ils ont été dessaisis de l'inculpation d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le point à Brazzaville avec notre correspondant Arsène Séverin.
Quelques stylistes et commerçants sont venus célébrer le pagne africain. Le salon de Brazzaville a permis des discussions sur les nouveaux modèles de pagne, mais aussi d'installer des stands de qualité. Pour la styliste commerçante brazzavilloise Solange, le pagne est une signature de la femme africaine.
Et le pagne, ça sert à beaucoup de choses. On le porte, on peut aussi porter un enfant avec. On s'en sert comme drap. Pour se couvrir, pour mettre sur le matelas. C'est très symbolique en tout cas. Pendant le mariage ici au Congo, on demande toujours les pagnes. Et souvent, les femmes aussi sont habillées en pagne pour leur dot, le mariage traditionnel. Vraiment, le pagne, c'est le chouchou de la femme africaine.
Venu de Bamako, Kadidia Traoré a partagé l'expérience du bassin malien.
J'ai des jolis modèles, j'ai des robes, j'ai des ensembles, les ensembles qu'on peut porter la nuit pour faire les soirées. Le salon, quand même, moi, j'ai trouvé que vraiment, ça va. Parce que c'est la première fois qu'on valorise le pain africain à Brazzaville. Je trouve que c'est vraiment important. Si ça peut continuer au fur et à mesure, c'est bien.
Paulette Sarah Akpo, ivoirienne, est une habituée des marchés africains du pain. À Abidjan ou à Cotonou, elle propose ses propres créations du pain africain.
En fait, c'est la soie, mais on a imprimé les motifs africains là-dedans. Les motifs du pain, du wax,
c'est nous-mêmes qui le faisons.
On les a en stretch, en soie et puis en plissé. Mais bon, ça va, on s'en sort. L'initiative, elle est très bonne. On a fait des rencontres et tout.
Mais le pagne n'est pas que l'affaire des femmes. Déo, vendeur de pagne au marché Poto-Poto de Brazzaville, explique sa présence à ce salon.
Juste parce que j'ai une boutique de pagne chez Maka. C'est pour ça que je suis venu exposer mes futurs deux temps. Hyper nouveau. Il y a les Java, il y a les dentelles, puis ma création des deux temps, très appréciée.
Loin d'un simple vêtement, une artisane basée à Pointe-Noire utilise avec beaucoup de finesse le pagne comme accessoire dans l'ameublement des maisons.
En fait, moi, ce qui m'attire, c'est la couleur du pagne, la matière. Moi, je voudrais que le pagne soit représenté différemment que sur un vêtement. Donc, le fait en meuble, en tabouret, en pochette, parce que c'est une originalité, une créativité. Ils sont très intéressés. Je suis basée à Pointe-Noire. J'ai mes artisans, menuiseries, soudeurs, couturiers et potiers.
Organisée par Pamela Okemba, la première édition du Salon de Pagne à Brazzaville a visé la revalorisation du pagne africain. La femme s'identifie par le port de son pagne, a-t-elle conclu. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Joselle Morissin. À la console, Thomas Blondet. Au micro, Clermont Ringibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Et notre page Facebook, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA